Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable. Je vous présente nos invités du soir, Bruno Salvet, Eric Figuer, Ricardo Baroni et Olivier Deniau. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Exceptionnellement, nous allons commencer du cyclisme, si vous le voulez bien. Ça va faire plaisir à Ricardo, qui a passé sa nuit devant la télévision pour suivre Liège-Bastogne. Liège, c'est la doyenne des classiques, l'une des plus longues également, plus de 257 km, si je me souviens bien. Victoire de Tadej Pogacar devant l'impressionnant français Paul Sexes. La troisième place pour Remco Evenepoel, qui courait à domicile. Ricardo, c'est ce Liège-Bastogne-Liège 2026 restera dans l'histoire. On n'a jamais roulé aussi vite sur cette course.
Moi, je voudrais quand même commencer par un peu d'humour. C'est qui fait deuxième ?
C'est un Français, Paul Sexes.
Ah, d'accord. Oui, on n'a jamais roulé aussi vite pour la simple raison qu'il y a eu une échappée d'entrée qui est partie avec à l'intérieur de cette échappée Remco Evenepoel, qui faisait partie des favoris. Donc ça a obligé l'équipe Decathlon et l'équipe UAE derrière à rouler pour le rattraper, puisqu'à un moment donné, ils avaient plus de 3 minutes d'avance. Donc ils n'avaient pas le choix de rouler pour revenir sur cette échappée. Donc ça a fait une course rapide du début à la fin. C'est pour ça que le record de la distance a été battu.
On a couru en moins de 6 heures.
Hein. C'est ça, tout à fait.
5h50 et 28 secondes.
À plus de 40 de moyenne, plus de 44, je crois, de moyenne. Donc c'est assez impressionnant, surtout vu le dénivelé qu'il y a sur cette compétition.
Alors c'est toujours drôle, parce que moi, les courses en Belgique, il y a un dénivelé de fou furieux, alors que la Belgique, c'est quand même
le plat pays,
ouais, c'est exactement ça.
Et pourtant,
il y a
un dénivelé,
de malade, avec des côtes mais qui font mal aux gens, mais notamment la fameuse côte de la Redoute, ouais. Qui restera là aussi pour le coup dans l'histoire, parce qu'on l'a jamais monté aussi vite.
Et
on a vu Paul Sexes, qui a été juste énorme derrière Pogacar.
Ça a été une montée vraiment impressionnante. Il y a donc la course avant la montée commence déjà à être sélective, parce que toutes les équipes veulent mettre leur leader devant, et il y a une grande descente juste avant, et donc tout le monde roule vraiment très fort dans la descente pour placer leur leader. Dès le bas de la montée de la Redoute, dans la roue de Pogacar, il y avait Paul Sexes, qui était évidemment favori pour cette manifestation avec Pogacar, puisqu'il a fait de super résultats avant cette course, cette doyenne Liège-Bastogne-Liège. Donc on attendait une performance de sa part. La performance était au rendez-vous. C'était impressionnant de voir la caméra au sommet filmer les deux en tête, et de voir le peloton, la distance qu'il y avait sur 1,6 km entre les poursuivants et donc les deux, qui sont donc Pogacar et Sexes. Entre deux, il y avait Skelmose qui essayait de revenir, mais il était déjà très loin. Donc ça a fait deux courses. Une course donc Sexes-Pogacar, et la deuxième course, le peloton derrière pour monter sur podium.
Avant de revenir avec vous, Ricardo, sur le phénomène Paul Sexes, je voudrais demander aux autres consultants s'ils ont suivi ce Liège-Bastogne-Liège, et puis ce Paul Sexes qui est juste mais énormissime depuis quelques semaines, Bruno.
Moi, ce qui m'étonne chez ce coureur, c'est vraiment la précocité. Il a 19 ans,
hein,
c'est
ouais.
Ça. Donc 19 ans, je crois qu'il participait l'année dernière à cette même course, mais en junior. Donc c'est vrai que par rapport à... Bon, le cyclisme, généralement, c'est un sport avec quand même une certaine maturité, mais un jeune qui arrive comme ça et qui arrive à performer, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mmh. Donc j'espère pour lui que ça va se poursuivre, et puis surtout qu'il va acquérir de l'expérience, il va se développer physiquement. 1m86 pour 64 kilos, j'ai vu.
60 kilos.
60 kilos, ouais, donc c'est pas... Voilà, donc c'est...
Faut le lester en 4 cyclone.
Voilà, c'est ça, mais c'est déjà un gabarit, il est très grand, donc c'est un avantage aussi pour un cycliste, notamment sur ces courses-là. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur et surtout, on espère le voir. Alors, je ne sais pas, j'ai lu et j'ai entendu que sa participation au Tour de France était...
Ça va être le débat tout à l'heure, préparez-vous.
Voilà, n'était pas encore acté, mais bon, ce sera... Je pense qu'il ne faut pas... Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que Ricardo en pense, mais peut-être pas griller les étapes aussi. Quoi. Je pense qu'il faut y aller pas à pas pour le mettre dans de meilleures conditions.
Éric.
On savait qui était le meilleur coureur du monde. On le connaissait, hein, il a gagné ce week-end encore. On savait que le français Sexas était d'un grand talent. Il l'avait montré déjà l'an dernier, mais surtout en ce début d'année. Et on sait maintenant que c'est le meilleur coureur du monde, très probablement. Alors, il n'est pas tout seul. Il y a 2-3 coureurs qui sont effectivement à son niveau. Mais en tous les cas, il les a rejoints. Il n'a pas encore rejoint, loin de là, Pogacar, bien évidemment. Il est intouchable. Pour combien de temps? Voilà, l'avenir nous le dira. Est-ce que Sexas va continuer à grandir, comme on vient de le dire? L'avenir nous le dira, mais je pense qu'on saura, dès l'année prochaine s'il a les capacités pour aller battre à la régulière Pogacar.
Je donne la parole juste à Olivier deux secondes et après on revient.
C'est pareil, hein, c'est que ça, je le suis, disons que je regarde les résultats depuis un petit moment parce qu'on nous parle de la pépite, le futur grand champion, le futur Bernardino. Moi j'ai vu des futurs Zidane, des futurs, etc., qui n'ont jamais rien fait. Pour lui, pour le coup, là, en l'occurrence, il est en train de montrer qu'il est présent parce que faire ce qu'il a fait hier, c'était très fort. Et puis après, si on a un débat sur le Tour de France pour Tour de France, moi je dirais un peu comme Mbappé, tu me parles pas d'âge, hein, parce que on a Alcaraz, on a eu donc Mbappé et d'autres qui ont réussi aussi très jeunes. Maintenant, bon, le cyclisme, c'est encore différent sur une course à étapes comme le Tour de France.
Autre chose, donc, mais on aura le débat dans un instant. Ricardo, il sort d'où ce Paul Sexas? On l'a vu comme ça, pouf, un jour arriver devant la scène.
Je souhaite revenir sur l'âge. Je pense qu'il faut pas trop tenir compte de l'âge, puisque maintenant le cyclisme et même le football, hein, l'âge, les gens deviennent professionnels beaucoup plus tôt, puisque lui déjà junior, Paul Sexas était donc quelqu'un qui suivait déjà des entraînements, ce genre de choses comme un professionnel. C'est un peu comme si on comparait Yamal et puis Zidane, donc c'est deux systèmes de cyclisme qui ont changé entre le temps où Pogacar est passé professionnel vers les 21-20 ans et qui faisait du vélo avant d'être professionnel, qui faisait du vélo en jouant, tandis que Paul Sexas, c'est vrai, il a 19 ans, on ne peut pas changer son âge, mais il est quand même depuis quelques années, on va dire, professionnel. Il sort d'où? Déjà, il a été champion du monde junior contre la montre. Donc, d'avoir un Français qui gagne une course contre la montre, c'est assez exceptionnel puisque c'était le défaut principal des David Gaudu et compagnie ou même Bardet pour gagner le Tour de France. Donc, lui, il a pas cette, on va dire, ce défaut de vainqueur de Tour de France. Il grimpe super bien. Donc, un Tour de France se gagne surtout au niveau de la montagne et du contre-la-montre.
Donc je vous pense, nous dites qu'il est bon en chrono, il est bon en montagne. Ça veut dire qu'il va gagner le Tour de France dès cette année.
Et j'ai pas dit qu'il était le meilleur. Parce qu'en contre-la-montre, le meilleur, c'est Remco Evenepoel, par exemple. En montagne, on ne sait pas ce qu'il vaut sur 3 semaines. Mais je crois que c'est un débat qu'on va faire après sur concernant sa participation, oui ou non, au Tour de France.
Eh bien, on va l'ouvrir le débat. Oui ou non, la participation de Paul Sexas au Tour de France. Ricardo, je vous donne la parole en premier.
On peut tout faire. Hein. Ça veut dire qu'on peut dire tout du oui et son contraire du non après. Donc, je vais commencer par le pour. Hein. Déjà, il est français. Donc, comme il disait tout à l'heure, successeur de Bernardino, les Français, ils attendent que ça depuis de longues années. Après avoir eu deuxième Romain Bardet et quatrième David Gaudu, ils aimeraient bien qu'un Français gagne le Tour de France. Pour moi, je souhaite qu'il le fasse cette année parce que à son âge, comme on disait, 19 ans, il le fait quoi qu'il lui arrive. On dira, il était jeune, c'est une expérience. Donc, il va le faire avec moins de pression. S'il le fait pas cette année, qu'il le fait l'année prochaine, il aura une pression totale.
Monumentale,
en disant l'année dernière, tu ne l'as pas fait et donc cette année, il faut absolument que tu fasses podium ou que tu le gagnes. Après, dans le sens négatif, on va dire, c'est qu'il lui faut quand même un petit peu d'expérience parce que la course est sur 3 semaines. Après, ça dépend si on l'amène cette année au Tour de France déjà pour faire un podium ou le gagner, ou si on l'amène simplement pour une expérience. Moi, ce qui me contrarie dans tout ça, c'est que tant qu'il n'a pas signé son contrat dans son équipe, on ne sait pas ce qu'il veut faire son équipe avec lui, parce que imaginons qu'il veut changer d'équipe l'année prochaine, puisque son contrat va jusqu'à l'année prochaine. Décathlon va vouloir absolument le mettre sur le Tour de France pour avoir un retour sur investissement. Donc, est-ce qu'il va faire le Tour de France ? Il ne va pas le faire. On sait ça début mai. Lui, d'après ce qu'on écoute et qu'on voit, il a envie de le faire. Et puis, ça nous permettrait d'avoir un défi supplémentaire avec donc Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et lui. Je pense que 4 coureurs qui peuvent faire un podium ou même gagner le Tour de France, je pense que ça peut être sympa au niveau suspense.
Eric, pour ou contre ?
Eh ben, le plus important, c'est de savoir quelles sont les attentes. Quelles sont les attentes qu'il a lui vis-à-vis de lui-même, hein, par rapport à sa carrière et ce qu'il aime faire sur le vélo. Tout dépend de ce que son équipe, mais c'est un petit peu ce qu'a dit Ricardo, bien évidemment, de ce que son équipe attend de lui. Si on attend de lui qu'il prenne de l'expérience et qu'il fasse un podium sur le Tour de France, évidemment que l'âge, peu importe, il faut qu'il y aille. Et ce sera une très bonne chose. Si on attend de lui qu'il gagne le Tour de France, la pression sera très importante. Et étant donné qu'aujourd'hui, Pogacar reste meilleur que lui et que, sauf à ce qu'il y ait des faits de course, Pogacar gagnera le Tour de France parce qu'il est au-dessus du lot et je crois qu'il y a assez peu de débats, enfin, à mon sens. Donc, si les attentes ne sont pas trop importantes, il faut qu'il y aille. Et puis, tout le monde a envie de le voir, il a envie de la courir, cette course. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne la fasse pas. Il faut juste, même si on s'enflamme tous un petit peu, parce que, bah oui, on est français, on a envie de voir voilà, un très grand, et c'est ce qu'il est en train de devenir. Mais voilà, si les attentes sont bien placées, sont justifiées, il faut qu'il la fasse.
Olivier Degnaud. Pour ou contre ?
Alors moi, comme je te le disais tout à l'heure, l'âge, bien sûr, en tant qu'éducateur, entraîneur, j'en tiens compte. Mmh. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, on est en 2026. On sera en 1980 et quelques. Je te dirais, on va le protéger comme à l'époque, Bernard Hinault avait été protégé. On l'avait, Cyril Guimard avait retardé d'un an. Là, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est sa préparation, parce que là, maintenant, la grosse préparation foncière, elle est faite. Hein, donc, s'il a prévu de faire le Tour de France avec la grosse préparation, voilà, il va y aller. Maintenant, il y a un monde économique, hein, comme tu le disais, Ricardo, Décathlon.
On en revient toujours à ça.
Ils ont peut-être envie d'avoir un retour sur investissement. Et aujourd'hui, on sait très bien, dans le monde du cyclisme, comme dans le monde du foot, du rugby ou autre, briller, être mis en avant, retour sur investissement, les sponsors, etc., être montré à la télé, c'est très, très important. Important pour l'équipe. Et Décathlon aura envie qu'on voit son coureur. Et s'il court, on va parler de Décathlon. Alors que s'il s'en va, en effet, l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est. Moi, je dirais que de toute façon, je pense qu'il va faire le Tour de France. Et je crois que d'après ce que je sais, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, ce jeune. Et il a envie de faire le Tour de France, d'après ce que j'ai cru comprendre en écoutant les médias.
Non, Bruno ? Bon, moi, je l'ai eu au téléphone.
Oui, tu l'as eu au téléphone. Ouais.
Donc, je peux vous annoncer un scoop. Non, je suis tout à fait d'accord avec Ricardo. Je pense qu'à 19 ans, on y va. Et puis, ce sera une belle expérience. Et puis, s'il n'y arrive pas,
Il apprendra.
Il aura le temps de progresser, puis de s'améliorer, puis de se réaligner sur cette course qui est quand même la plus belle course au monde. Quoi. Mmh.
Ricardo, j'aimerais qu'on parle de la personnalité de
Pogacar.
De Sexas. Vous l'avez vu notamment courir, vous, autour de Lombardie.
Oui, j'étais sur place et donc je l'ai vu où il s'est fait lâcher. Puisque je la connais très bien, cette montée, c'est vraiment une montée très difficile. Mm-hmm. Et après, donc, ça redescend dans la vallée. Et après, un peloton, un petit groupe s'est reformé. Et donc, en la montée finale, on avait passé tout seul Pogacar. On avait après passé tout seul Remco Evenepoel. Et lui, dans un groupe. Maintenant qu'on voit l'évolution qu'il y a eu avec Liège-Bastogne-Liège en quelques mois, puisque le Tour de Lombardie, c'était au mois d'octobre, en quelques mois, il est capable de suivre Pogacar, ça nous donne envie de suivre le vélo, le cyclisme, et d'entendre parler que vélo, que cyclisme, pour ceux qui lisent entre les lignes. Ouais. Donc, moi, ça m'intéresse de voir, et ça m'a impressionné cette évolution qu'il y a eu en quelques mois. Est-ce qu'il va continuer à évoluer ou pas ? Moi, je sais pas, mais c'est vrai que la curiosité nous donne envie de voir ce champion se battre et contre les autres coureurs. Maintenant, en tant que personnalité, moi, je trouve que c'est vraiment un coureur d'une grande classe, très respectueux avec les adversaires. Les adversaires ont aussi du respect pour lui, ce qui leur laisse pas trop le choix puisqu'il est souvent devant. Mais je veux dire, moi, ce qui m'a surpris sur ce coureur, c'est l'année dernière. Il arrive à la dernière étape du Tour des Alpes. Il arrive pour la victoire avec un équipier. Et donc, les consignes de l'équipe Decathlon, c'est que c'est lui le futur, donc c'est lui qui devait gagner. Et il a refusé. Il a dit non, il n'est pas question. Je laisse mon équipier gagner. J'aurai le temps de gagner d'autres courses dans le futur. Et ça, j'ai trouvé que c'était d'une grande classe. Il se sentait sûr de lui, puisque c'est pas « je veux gagner tout de suite ». Donc, il a gagné en ce début d'année. Et je trouve que ça reflète un peu le type de personnage. Et ça fait plaisir de voir dans le sport qu'il y a un respect de l'adversaire et que ça fait un bon exemple pour la jeunesse dans le sport actuel.
Mais ce garçon est parfait.
Oui, il est parfait.
Il a l'air.
Vous nous le décrivez comme voilà, il est bon partout, même si c'est pas le meilleur. Il est sympa.
Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas qu'il est qu'il a toutes ces qualités-là?
En plus, il est français. Et en plus, il est français. Donc, allons-y.
Il y avait qu'à voir à l'arrivée de Liège, Bastogne-Liège. Donc sur la ligne d'arrivée, Pogacar attendait Paul Sexas. Et donc quand il est arrivé, ils ont eu des gestes amicaux, de sympathie, où lui, il lui a dit j'ai rarement rencontré un coureur aussi fort, donc ça donne un certain respect. En plus, entre les deux montées, donc la Redoute et la montée où Paul Sexas se fait lâcher, il a pris des relais, il a été constructif. Il aurait pu rester derrière Pogacar et dire c'est toi le champion du monde, débrouille-toi. Ah non, il a été très sportif. Donc c'est vrai que c'est un coureur qu'on a envie qu'il soit sur le devant de la scène. Le public en plus l'apprécie beaucoup. Donc moi je pense que ça a été une attitude sur ce Liège-Bastogne-Liège de sa part qui a attiré encore plus la sympathie des autres que français, puisque le fait de collaborer avec un coureur comme Pogacar qui est champion du monde, ça montre un certain respect. Et Pogacar a eu du respect à l'arrivée en lui disant qu'il a été vraiment un adversaire à la hauteur de cette compétition.
Fait du bien d'ailleurs, excusez-moi, mais ça fait du bien de voir ces comportements-là de ces grands champions. Ça fait vraiment du bien. On ne voit pas toujours de belles choses dans le sport, malheureusement. Et là, quand on voit ça, ça nous fait énormément de bien.
Une question, Olivier. Une question à Ricardo. Est-ce que tu aurais les données de la puissance qu'ils ont développée dans cette fameuse côte de la Redoute, parce que moi je suis un fan des datas et je sais que
je donne les datas
et après on passe à la suite.
Donne les datas, après je les explique.
Vous faites comme vous voulez, les gars, vous êtes à la maison.
Non, franchement, parce que là les records ont été battus et je crois que
dans la montée de la Redoute, Pogacar a développé 460 watts pour 66 kilos et il avait le vent de face. Et donc Sexas s'est accroché dans sa roue abritée avec 410 watts pour 60 kilos. C'est pas vraiment énorme comme data. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'avant ils avaient fait 200
kilomètres. C'est ça, voilà.
C'est donc la durabilité de ces coureurs. Ça veut dire qu'ils sont capables de développer autant de watts après 200 kilomètres. Et donc c'est ça qui est impressionnant, de voir l'entraînement et la préparation qui permet de développer cette puissance après autant d'heures de vélo déjà en course.
Ricardo, ça représente quoi de développer 460 watts sur 1,6 km? Ça veut dire quoi pour celui qui aime pas forcément les datas ou qui a du mal à les interpréter?
460 watts, on va regarder par exemple un sprint, c'est dans les 1000 watts que les sprinteurs développent. Tandis que 460 watts dans une montée, c'est énorme dans une montée. C'est vraiment quelque chose de... C'est une valeur étalon qui est calculée avec des systèmes qui sont soit dans le pédalier, soit dans les pédales, qui permettent de donner une certaine valeur à la puissance. Et c'est très important de... Maintenant, il faut savoir qu'un coureur comme Paul Sexas, entre octobre de l'année dernière au Tour de Lombardie et cette année, il a augmenté de presque 50 watts sa puissance. C'est ce qui lui permet de pouvoir suivre un coureur comme Pogacar. Maintenant, on voit souvent les coureurs, et c'est un peu dommage, que quand ils pédalent, ils regardent sans arrêt leur compteur parce qu'ils savent qu'à tant de watts, ils peuvent développer cette puissance sur une donnée bien précise. Tandis que sur plus de watts, ça va durer peut-être qu'une minute.
Monsieur Data est satisfait?
Ouais, je suis satisfait, non, mais les explications sont limpides. Et surtout, c'est que ça explique aussi les progressions au niveau des vitesses qu'on voit aujourd'hui. pour d'autres raisons, hein, bien sûr. Et j'incite tous ceux qui font du sport en salle, hein, vous faites du vélo, vous regardez, vous montez à 450 watts, et puis on verra combien de temps vous tenez. Moi, je sais que je ne tiens pas beaucoup à 450 watts.
On va conclure cette page de cyclisme, et puis ouvrir une page rugby à présent, parce qu'il y avait top 14 ce week-end. On va rappeler les résultats. Stade français qui s'est imposé 34-32 sur Pau. Lyon qui a battu Castres 26-21. Toulon qui a battu Bayonne 52-26. Le Racing qui a été s'imposer 59-10 sur la pelouse de Montauban. Défaite de Perpignan, mais alors Eric, enfin.
Ah là là.
Perpignan à domicile de justesse face à La Rochelle 31-29. Montpellier s'est imposé 23-21 sur l'Union Bordeaux-Bègles en déplacement à Bordeaux-Bègles. Et Clermont, ce matin, qui a battu Toulouse 27-24 à Toulouse. C'est un peu la sensation de cette journée, Bruno Salvet, cette victoire de Clermont à Toulouse.
Ah oui, carrément.
Surtout que les Clermontois étaient menés 21-0 après 10 minutes de jeu.
10 minutes de jeu, 21-0. Et puis surtout un essai marqué au bout de 41 secondes pour les Toulousains.
Un carton jaune, je crois.
Oui, donc un carton orange donc, qui correspond à comme un carton rouge. Donc ils ont joué à 20 minutes à 13, à 14. Puis un carton jaune, donc une équipe diminuée. Mais les Clermontois ont relevé la tête, ont su relever la tête. Et surtout, je pense que les Toulousains se sont un peu endormis sur leur laurier en menant après 21-0. Les Clermontois ont vraiment tenu la dragée haute et se sont finalement imposés de 3 points. Donc une belle victoire de Clermont qui relance complètement le haut de tableau, puisque là on est rentré vraiment dans les phases finales. Hein, on était sur la 22e journée du championnat.
Il en reste 4.
Il restera 3, puisque 3, oui. Puisqu'il y a 26 journées. Et donc c'est vrai que cette victoire permet à Clermont de remonter, de passer à la 5e place. L'autre sensation du jour aussi, ça a été quand même la victoire de Montpellier à Bordeaux aussi. Donc c'est vrai que les favoris ont été malmenés ce week-end et rentrent vraiment dans peut-être pas des matchs éliminatoires comme on connaissait avant avec des quarts de finale et ainsi de suite, mais là on est vraiment sur une bataille pour la qualification et donc il y a très peu de différence hein, puisque Toulouse est à 76 points et premier, Pau est à 65, suivi de Montpellier à 65, Stade Français 63, Clermont 61, Bordeaux 60, Racing 60, Toulon 55 un peu plus loin. Mais ça va être très serré pour les trois dernières journées qui vont être vraiment primordiales pour les fameuses 6 premières places qualificatives pour les phases finales. Oui.
Eric ?
Deux défaites inquiétantes pour l'UBB et Toulouse. Pas inquiétantes pour Toulouse dans le cadre de l'accession au play-off, bien évidemment, puisqu'ils finiront premiers, ils ont trop d'avance. Mais malgré tout, ça fait 2-3 matchs où on les voit un peu en difficulté. Là, carrément, puisque, comme l'a dit Bruno, après avoir mené largement, ils se sont écroulés et ont été battus à domicile. Ça fait quand même une grosse tâche. Alors, de deux choses l'une, ou bien c'est la petite piqûre de rappel que tous ces clubs-là ont besoin de temps en temps pour les faire repartir du bon pied et remettre les idées en place, ou bien s'il y a un vrai petit malaise, voilà, et c'est pas du tout à exclure, voilà, parce que ce qui est difficile, ce n'est pas de gagner une saison, de gagner le bouclier de Brennus en l'occurrence, c'est plutôt de gagner régulièrement, et ça Toulouse sait le faire, mais on peut pas gagner tous les ans non plus, et donc à un moment donné, parce que des blessures, parce que une petite lassitude, parce que même si dans le championnat ils montrent avec cette avance considérable qu'ils sont encore au-dessus du lot, mais c'est surtout, je pense, grâce à un effectif pléthorique et un club qui est si bien structuré que tous les ans ils sont là. Mais pour ce qui est du bouclier, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu.
Olivier, Mister Data sur le rugby.
Non, mais je suis étonné là que Toulouse se soit fait remonter justement. Là, j'ai regardé un peu le début, là, 21-0. Je suis parti après.
C'est bon, c'est
j'apprends
plié.
Qu'ils ont. Je pensais que c'était plié, mais enfin, comme quoi, hein, c'est jamais plié. On le sait très bien. Mais peut-être un relâchement. Puis c'est pas là. Ça, quand ça arrive une fois, on dit que c'est un accident. Là, ça fait quand même 2-3 fois.
Il me semble qu'on avait déjà parlé de piqûre de rappel une précédente émission il y a quelques semaines.
Il y a eu le match en Coupe d'Europe.
Mais là, il menait 21-0. Oui, c'est ça qui m'a étonné. Moi, je vois. voilà,
bon, bah, trop, peut-être trop sûr, après, trop sûr d'eux, peut-être pas respecter l'adversaire. Ouais. C'est malheureux, parce que d'autant plus avec des joueurs de ce niveau-là. Mais on a constaté ce que disait Eric, c'est que les leaders n'ont pas su s'imposer et relever la tête. On a vu Thomas Ramos commettre des fautes qu'on n'a jamais vu faire, c'est-à-dire taper directement en touche, faire des en avant. Dupont a été transparent quand il est rentré, donc peut-être une certaine lassitude. Là ils vont avoir un week-end de repos puisque le week-end prochain ce sont les demi-finales des Coupes d'Europe. Mmh. Et je pense que il va falloir aller après à Marseille pour jouer contre Toulon. Mmh. Donc on verra je me fais pas trop de soucis pour le Stade Toulousain, c'est une équipe qui a de l'expérience, mais c'est vrai que là, et puis Clermont qui a joué le jeu, puisque beaucoup d'équipes cette année quand ils sont venus à Toulouse ils ont fait un peu l'impasse en venant avec une équipe bis pour essayer de préserver leur effectif. Et là, clairement, l'entraîneur l'avait vraiment affiché en disant on va à Toulouse avec la meilleure équipe possible pour essayer de faire un résultat. Et bien lui en a pris puisqu'ils ont réussi à remporter ce match qui était primordial pour leur qualification.
C'est pas tant la défaite, c'est la manière, qu'ils ont eu de perdre et l'absence de réaction. Puisque au moment où effectivement ils se font reprendre, il y avait encore la place de réagir. Ça n'a pas été le cas, en tous les cas pas suffisamment. Et c'est ça qui est plutôt inquiétant.
Et puis tu te prends 23 points d'affilée, quoi. Ouais.
Mmh. Oui, puis battu en conquête, que ce soit sur les touches, contré en touche, malmené en mêlée fermée. Et puis une défense clermontoise très agressive qui leur a bouché tous les extérieurs et n'ont pas pu.
Et un Antoine Dupont qui, comme tu l'as dit, est en deçà de ses standards. Je l'avais dit quelques fois que lui et Thomas Ramos étaient vraiment. J'apprends rien à personne, hein. C'est deux joueurs hors normes. Mais quand ces deux-là commencent à pédaler dans la semoule, comme on dit, et on peut avoir des problèmes.
On va marquer une toute petite pause de pub, 15 secondes, pas plus, et on revient dans un instant.
RRB, la pub. Le tout info continue avec la BCI. Particuliers, professionnels, entreprises, avec la BCI, des solutions sur mesure pour construire et accompagner tous vos projets. BCI, ensemble, voire plus loin.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Allez, retour sur le plateau d'une semaine sportmédable où j'ai créé la polémique en demandant quand se jouait le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich, demi-finale de la Ligue des Champions. On va en parler dans un instant, on va juste clore la page rugby. Eric, c'est vraiment pas pour vous chambrer, Perpignan, enfin.
Allez. Ben Perpignan, on peut pas attendre deux après une si mauvaise première partie de saison qu'il gagne deux matchs sur trois, c'est pas possible. D'accord, on sait très bien qu'ils vont être maintenant barragistes, donc ça joue beaucoup mieux, c'est ce qui est important. Ça perd souvent de justesse. Alors ma foi, ça reste des défaites, hein, et notamment à la maison, donc c'est toujours un peu compliqué. Mmh. C'est toujours décevant pour les joueurs qui se donnent énormément. Mais moi, je vois plutôt le côté positif de la chose. Voilà, ils font de bons matchs. Il manque un rien pour que ça se transforme en victoire. Donc c'est très positif, pas pour la fin de championnat parce que les dés sont jetés, mais pour le barrage qui arrivera immanquablement.
Mmh. Bruno, vous êtes d'accord avec l'analyse?
Oui, c'est sûr que pour Perpignan, c'est le début de saison qui les a vraiment fortement handicapés. C'est vrai que là, à chaque fois, ce sont des défaites, de courtes défaites, mais bon... Je pense qu'il faut se concentrer sur le barrage à venir. Et je
il faut continuer à bien travailler, c'est le cas.
Et ça va être le cas.
Le club vit de mieux en mieux. Et donc, on va regarder l'avenir avec sérénité.
Oui, Bruno.
Un petit mot sur peut-être l'équipe de France féminine qui a remporté son troisième match du tournoi de destination.
Contre l'Irlande,
oui, une belle victoire avec un bonus offensif. Donc les Françaises toujours à la poursuite des Anglaises. Donc ce sera la rencontre finale, le crunch, puisqu'elles se rencontreront lors de la dernière journée. Et donc les Françaises iront d'abord en Écosse. Et puis on espère que cette fois-ci la victoire finale sera au rendez-vous, mais on a une belle équipe de France féminine qui produit énormément, quoi, un jeu très attrayant et voilà, face au rouleau compresseur des anglais, ce sera toujours compliqué parce que bon, les joueuses anglaises ont déjà un statut particulier de professionnelles que les françaises n'ont pas.
Oui.
Voilà, donc on en avait parlé déjà une fois, donc voilà, bravo aux filles pour leur prestation.
Allez, on ouvre une page football, 5 minutes de football.
5 minutes.
Championnat. Ce week-end, on rappelle rapidement les résultats. 3-3 entre Brest et Lens, Lyon qui a battu Auxerre 3-2, le PSG qui a été s'imposer 3-0 sur la pelouse d'Angers, 2 partout entre Toulouse et Monaco, Strasbourg qui s'est imposé à Lorient 3-2, la victoire de Lille 1-0 sur la pelouse du Paris FC d'Antoine Camboiré, Rennes a battu Nantes 2-1, 4 buts partout, un match impressionnant entre Le Havre et Metz, et puis Marseille tenu en échec au Vélodrome, 1 but partout face à Nice. C'est peut-être ça finalement l'info de cette journée de championnat, Olivier.
Ouais, alors moi j'ai noté
encore la déception.
Trois points, puisque l'important c'est
Mister
les trois
Data.
Points.
Oui,
en
sûr,
football,
bien
l'important
sûr.
C'est les trois points. Bah l'OM comme tu dis, qui se fout un peu dans la merde à faire match nul, excusez-moi du terme. Nantes, à mon avis, c'est un peu plié là. Ouais. Voilà. Et puis Paris qui se prépare à sa
demi-finale.
Champions League. Oui, alors pour l'OM, oui, en effet, Monaco a raté le coche de passer devant, mais Marseille se fait rattraper à la fin sur une petite Panenka, en plus, d'un ancien joueur marseillais.
Ouais.
Donc, bon, je ne sais pas s'il devait s'en douter ou pas, il le connaissait, mais d'après ce que j'ai compris, il a bien chambré. Et puis, ça va pas mieux, quoi, parce que là, ils ont besoin de faire le plein pour pouvoir espérer faire la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils ne sont même pas sûrs d'être barragistes en Ligue des Champions, puisqu'il faut terminer quatrième.
Ouais.
Donc, ils vont peut-être se contenter. Enfin, c'est pas fini, il reste trois matchs, mais là, c'est mal barré, parce que Lyon, devant.
57 points.
57 points. Lille aussi,
Lille,
qui a été gagnée.
Rennes qui passe
devant
aussi.
Donc de ce côté-là, Marseille, leur stage commando là, qu'ils ont mis en place, ça n'a pas bien fonctionné.
Et puis le changement de logo, c'est
logo
pas bon
non plus.
Moche d'ailleurs.
Voilà.
Bon, Marseille a fait du Marseille. Comme d'habitude, on aurait tendance à dire. C'est bien désolant pour les supporters de l'OM. Mais au train où vont les choses, ils ne feront pas en tous les cas, ils ne joueront pas à la Ligue des Champions. C'est évidemment qu'il y a encore des points à prendre et mathématiquement c'est possible, mais ils en prennent vraiment le mauvais chemin et c'est bien dommage pour eux évidemment, mais c'est mieux pour les autres et puis les autres jouent mieux, Lyon, Lille notamment, on vient d'en parler, donc ils auraient tort de se priver, de profiter de cette faiblesse.
Et puis Rennes est là aussi, et puis on va commencer
l'ancien
club de l'entraîneur de l'OM.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va commencer à se poser des questions sur cet entraîneur qui je le dis d'ailleurs toujours, lorsqu'on les écoute en conférence de presse, leur manière de s'exprimer et les messages qu'ils font passer sont très instructifs. Alors, pour le coup, Bibay est peut-être un de ceux qui va faire mentir un peu ce que je dis régulièrement, parce qu'il s'exprime très bien et ce qu'il dit est très intéressant. Mais il faut après savoir le transposer. On le voit avec Sage, l'entraîneur de Lens, qui a lui aussi des messages fantastiques et une manière de faire passer les choses. Et pour le coup, avec qui ça marche. Alors, ça marchera peut-être pas moins bien à l'avenir, mais en tous les cas, ça marche très bien là. Habib Bey, pour l'instant, est dans la nasse. Il ne sait pas comment faire, et au contraire d'Antoine Comboiré qui sait comment faire, même si malheureusement, alors là, ils perdent 1-0, ils ratent un pénalty sur le poteau.
Mais ils sont sauvés. Alors, tu sais qu'il y a peut-être la pression qui est redescendue.
Tout à fait, ça s'est joué à pas grand-chose, mais voilà. Bon, le titre est acquis pour Paris. Lens finira deuxième, et puis trois équipes derrière. Moi, je exclus l'OM. Tant mieux si je me trompe, mais je pense que. Je pense qu'ils n'iront pas au bout.
Le football, c'est aussi Ligue des Champions, cette semaine.
Mercredi matin,
le débat est clos.
Heure de Nouméa.
Mercredi matin. Paris Saint-Germain qui rencontre le Bayern Munich. Match compliqué pour les Parisiens.
Forcément.
Parce que
On saura.
Face à Liverpool, ça s'est bien passé.
Oui, c'est bien passé. Mais le Bayern, c'est le Bayern aussi.
Le Bayern est plus fort que Liverpool, c'est une évidence.
Ouais. Ouais.
Voilà, c'est l'équipe qui ressemble le plus à Paris, on le dit toutes les semaines.
Ils sont libérés du championnat depuis deux semaines. Ils savent qu'ils ont gagné le championnat, donc ils se sont tournés entièrement. Ils ont même gagné la Coupe d'Allemagne, ou ils sont qualifiés en finale,
ils sont qualifiés.
Là, ils sont vraiment en focus 100% vers cette Champions League. Donc, ça va être compliqué. Mais voilà.
Ricardo,
Oui, dans l'équipe du Bayern, il y a un joueur français que j'aime bien. Regardez, c'est Olysée. C'est vraiment un beau spectacle. C'est vraiment un joueur. Il partage avec ses équipiers en attaque. Et c'est vraiment beau de voir ce football de ce joueur, surtout dans une équipe allemande. S'il avait été dans une équipe française, on l'aurait, on va dire, applaudi. On aurait été très fiers de lui. Mais on parle pas souvent, je trouve, de lui. Et je trouve que dans cette équipe de Bayern, il a vraiment une ascendance sur ses équipiers qui est très positive. Et je serais vraiment curieux de savoir comment ça va se passer, ce match, même si ça donne l'impression que c'est une finale anticipée. Mais c'est un match aller-retour, donc on va voir ce qui va se passer. J'ai vu que toutes les équipes étaient au complet, donc il n'y aura pas de problème de blessés ou quoi que ce soit. Je pense que ça nous promet un très beau match.
Eric, on saura déjà qui est la meilleure équipe d'Europe, même si ce n'est pas forcément celle des deux qui passera le tour, qui gagnera la Champions League. C'est une évidence, c'est aussi la loi du sport. Mais pour revenir, je fais une petite aparté pour revenir sur l'OM. Ce match, encore une fois, un peu pitoyable, au moment où André-Pierre Gignac fait son jubilé au Mexique. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai des frissons, les images de ce jubilé.
Moi, j'ai vu les images,
pas de ce jubilé, de ce dernier match, avec vraiment un public mexicain. Ouais. Voilà, André Pierre, qui a joué à l'OM, qui a fait des merveilles, et qui est parti il y a 11 ans au Mexique, qui a fait des merveilles, qui fait des merveilles, puisqu'il est encore en activité
chez
au
les Tigres.
Voilà. Tigres. Ouais. Et franchement, c'est fabuleux à quel point il s'est fait aimer, à quel point il a battu tous les records, permis à son club d'arriver au plus haut niveau en Amérique du Sud, c'est assez fabuleux. Et quand on voit l'OM jouer aujourd'hui, on se dit purée.
Voilà. Il va revenir.
Il
va revenir.
Ah, pas pour jouer.
Bruno, sur cette demi-finale de Ligue des Champions de football, je sais bien que le ballon est rond.
Moi, j'espère que Paris va s'imposer, bien sûr. Voilà, j'espère qu'on va avoir un beau match et que les Parisiens vont pouvoir. Peut-être s'ils peuvent prendre déjà une avance au niveau des buts, et puis parce que le retour au Bayern en Allemagne, ça risque d'être très compliqué.
Et comme vous le disiez, le Bayern reste le Bayern.
Il y a une équipe
il y a 50 ans qui s'en souvient.
Ouais, mais
c'était
on disait,
le 12 mai 76.
Tu sais qu'on disait que le football est un jeu simple.
Et le poteau était carré.
Et qu'à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Mais là, depuis, on a fait tourner la roue et les Français en ont gagné quelques-uns.
C'est ce qu'on veut. On veut voir les meilleures équipes jouer les unes contre les autres, comme on veut voir les meilleurs cyclistes se battre. Se battre à la pédale, comme on dit, voilà, c'est ce qu'on veut. On l'aura dès mercredi matin avec une petite revanche,
et avec le café,
un deuxième match la semaine d'après.
On termine, messieurs, avec vos coups de cœur, coups de griffe. Je commence avec vous, Ricardo, et je vous ai donné l'autorisation d'en faire deux. Vous m'avez demandé poliment tout à l'heure en arrivant, donc je vous donne l'autorisation.
Mon premier coup de cœur, c'est pour Ducati. Qui a gagné donc la compétition sprint
Grand Prix d'Espagne
et le Grand Prix MotoGP. Et donc ce coup de cœur, il est pour le club Ducati de Nouméa, qui va le 9 mai organiser une journée spéciale pour les 100 ans de Ducati. Ça, c'est mon premier petit coup de cœur. Et mon deuxième coup de cœur, c'est pour le club de Bourail, le CSB Bourail, qui a organisé ce week-end deux courses de vélo et qui avait vraiment beaucoup de monde. Et j'ai pu voir quelques photos de la météo, et chapeau aux organisateurs et aux participants à ces deux manifestations.
Olivier.
Alors moi, ça serait aux athlètes, j'ai plus le nom en tête, du marathon de Londres. Ils sont deux à avoir fait moins de 2 heures au marathon. Pour info, alors encore une fois, pour les non spécialistes, mais ceux qui courent un petit peu le dimanche et qui ont fait du 1000 mètres à l'école, c'est une moyenne de 2,49 au kilomètre. Donc vous faites 42 fois 2,49 au kilomètre.
2,49 au kilo, sur un kilo, déjà, faut courir.
Vous recevez de bonne heure. Et c'est 28 fois. Pour ceux qui font un peu d'athlé, 4-15 au 1500 mètres. 4-15 au 1500 mètres, c'est une grosse performance déjà. Donc là, 28 fois d'affilée, 4-15 au 1500 mètres, sans s'arrêter.
Il faut les voir en vrai, c'est comme les cyclistes.
Ouais, ouais.
Il faut les voir en vrai courir pour s'apercevoir à quel point ils vont vite.
Bruno.
Moi, un petit coup de cœur pour le jeune capitaine de l'équipe de Clermont, Baptiste Jeuneau, qui a bien mené son équipe et qui a montré, qui a ouvert la voie en marquant le premier essai de la rébellion de Clermont, et qui a vraiment montré l'exemple à tout son collectif.
Éric Figuier.
Alors, comme Olivier a oublié de parler,
voilà.
Parce qu'il y a eu un record du monde chez les garçons. Donc, du coup, je lui donne un petit coup de main, voilà. Même s'il me taquine beaucoup. Donc, les filles aussi, l'Éthiopienne, qui a battu le record du monde. Je ne connais pas son nom, je suis vraiment navré, mais en tous les cas, c'est un beau record du monde. C'était son propre record du monde qu'elle a battu sur la même course, un peu avant les garçons, donc c'est fabuleux. Et moi.
Oui, bien sûr, allons-y.
Les frères, je ne parle jamais de golf, donc pour une fois j'en parle. Voilà. Les frères Matthew et Alex Fitzpatrick qui ont gagné ce matin le tournoi américain de la semaine en double. Voilà, c'est une histoire fabuleuse, au-delà de la victoire qui est toujours belle évidemment sur le circuit américain. C'est deux frères pour la première fois qui gagnent ensemble. Et puis Alex, le plus jeune, donc Matthew est très connu, il a gagné la semaine dernière en play-off contre le numéro 1 mondial. Là, il joue avec son frère. Et l'histoire est d'autant plus belle que Alex, le jeune frère, veut donc jouer sur le circuit américain lui aussi. Mmh. Il est sur le circuit européen, on va dire. Et il savait qu'avec une victoire avec son frère, il serait qualifié pour la saison en cours et la saison suivante. Et il a été chercher cette victoire. Ils ont été chercher cette victoire tous les deux avec un coup fabuleux de Matthew Fitzpatrick au dernier trou.
Ricardo, 10 secondes.
On va finir avec 5. Un peu d'humour. Demander à Bruno qui nous appelle quand il a au téléphone Paul Sexas fait ou il ne fait pas le Tour de France.
Rendez-vous la semaine prochaine pour avoir le résultat.
Dès que j'ai l'info, je vous la donne.
Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir pour cette nouvelle semaine sportmidable. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine à suivre dans un instant. On a un petit peu de retard. Léo Fichot pour le journal. À bientôt.